lundi 11 juillet. Ici Chantal Lavoie, bienvenue à Aime l'été. On se retrouve pour une troisième semaine. Bien agréable de vous accompagner tous les jours, comme ça, du lundi au vendredi, de midi à 13h. On profite de cette heure de lunch, ou si on veut, de cette pause du midi, pour rencontrer différents invités, aborder les sujets les plus variés, et principalement tout ce qui concerne les plaisirs et les activités de l'été. Alors, joignez-vous à nous pour ce moment de détente, de rencontre, de découverte et de petites bulles musicales. Voici votre émission estivale Aime l'été. Et aujourd'hui à Aime l'été, un nouveau chroniqueur se joint à nous. Et oui, après nous avoir présenté notre chronique voyage vendredi dernier, nous allons commencer la semaine avec effectivement un nouveau chroniqueur environnement. Alors, ce sera très intéressant de l'entendre semaine après semaine. Il sera question de l'eau aujourd'hui. Également, il sera question aujourd'hui d'un sujet un peu plus sérieux, la santé mentale. Vous savez que l'été, les problèmes de santé mentale ne prennent pas de vacances et ne disparaissent pas avec la chaleur et le beau temps. On en parlera avec l'auteur et conférencier Richard Langlois. Et enfin de l'humour avec le Zoo Fest. Pour la prochaine heure, soyez des nôtres à Aime l'été.
Thank God I can breathe, I can be what they can buy. Even when I'm weak, I'm sure it's gonna be alright. Thank God I got home, I got food and I got ya. Yes, I will survive. Thank God I can breathe, I can be what they can buy. Even when I'm weak, I'm sure it's gonna be alright. Thank God I got home, I got food and I got ya. Yes, I will survive. There will be highs and lows. Thank God I'm rimming okay, okay, not bruised. Damn high, how glasses drive me insane and I'm amazed. When I think about how lucky I am to wake up in a country full of bombings, killings. Out of them I got no fucking problems. Glad you never try to pull me down. Oh, too many times I did you wrong. Digging in my enemy, then I found the enemies of the fucking niggas way too strong. And I keep the diamonds in my mind too long. No, they don't believe me cause I look too young. And every time I see the beauty, be the day coming too quickly cause I'm always looking for what's wrong. God, I can breathe, I can be what they can buy. Even when I'm weak, I'm sure it's gonna be alright. Thank God I got home, I got food and I got ya. Yes, I will survive. Thank God I can breathe, I can be what they can buy. Even when I'm weak, I'm sure it's gonna be alright. Thank God I got home, I got food and I got ya. Yes, I will survive. Ago, body in the air, like they say it in the shows. You pull me back in it just to teach them what I know. Then I had to go. I gotta go and see all the shit that was in my mind. Thank God I do not leave when Trump came after Obama. All my strength for the mamacitas, my brothers, sisters, never give up. Beginning of a new world that nobody wants. But if it's another city, who trust in us now? Yeah, I know, I know, I know. Rose got thorns and I got a long way to go. Plus I told ya, 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 ya. No matter what happens, we never down, down, down. Thank God I can breathe, I can be what they can buy. Even when I'm weak, I'm sure it's gonna be alright. Thank God I got home, I got food and I got ya. Yes, I will survive. Thank God I can breathe, I can be what they can buy. Even when I'm weak, I'm sure it's gonna be alright. Thank God I got home, I got food and I got ya. Yes, I will survive. I can breathe, I can be what they can buy. Even when I'm weak, I'm sure it's gonna be alright. Thank God I got home, I got food and I got ya. Yes, I will survive.
Riles Katimi, eh oui. Alors, né en 1996 à Rouen, c'est un rappeur, auteur, compositeur, interprète et producteur de musique français, composant et interprétant ses chansons en anglais. C'était la pièce Thank God. Eh bien, ce qui nous concerne, on va s'intéresser au spectacle Merci la vie, présenté au Zoo Fest. Et oui, le Zoo Fest, présenté du 13 au 31 juillet, qui se déroule à Montréal. C'est un autre événement qui nous revient avec l'été, qui est dans le paysage montréalais depuis 2009, fondé dans le but d'offrir un espace de rencontre entre le public et la relève en humour, théâtre et musique. Eh ben, on en parle avec, justement, de ce spectacle Merci la vie, avec Gariana Jean-Louis. Bonjour!
Bonjour, comment ça va?
Ah, très bien. Alors, dans une énergie fulgurante et un humour à saveur, mangue, érable, c'est comme ça qu'on vous présente. Et oui, vous évoluez entre le Québec et Haïti depuis votre plus jeune âge. Deux identités, donc, et votre présence sur scène met de l'avant cette double culture faisant rire un large public, un public multiculturel. Alors, voilà comment on vous présente. Et puis, bon, justement, vous avez plusieurs grands festivals à votre actif. Hein. Vous vous exprimez dans trois langues différentes, français, anglais et créole. Écoutez, on va parler tout de suite. Bon, vous êtes la première et seule femme noire diplômée de l'École nationale de l'humour. C'est quand même pas rien. Vous avez reçu plusieurs prix des débuts, en fait, vos débuts dans le monde de la scène, ont été, en fait, bien soulignés, notamment récipiendaire d'un prix Gémeaux en 2021, comédienne de l'année en 2019 et découverte de l'année en 2017-2018. Alors, je fais un long, un long préambule, mais pour vous faire connaître déjà, parce que j'ai plein de questions à vous poser, bien sûr. Alors, justement, mettons l'accent là sur la question d'être la première femme noire en humour, mais évidemment, on pose souvent ce genre de questions d'abord. Hein. On a tendance à dire, bon, à mettre l'accent sur le fait d'être une femme noire en humour. Est-ce que ça change vraiment quelque chose? Bon, est-ce que ça vous dérange qu'on porte de l'attention là-dessus?
En fait, non. Au début, oui, parce que j'étais un peu comme un peu... C'est quand même un peu gênant, en fait, je trouve. C'est un très grand défi aussi, un très gros chapeau à porter, en fait. Mais au fur et à mesure que les années passent, je m'assume, je m'affirme, et c'est ce que c'est, en fait. Donc, c'est la réalité dans laquelle je vis, et c'est la réalité dans laquelle, en fait, dans la société dans laquelle j'évolue, en fait, en ce moment. Donc, je porte le chapeau fièrement.
Bon, d'accord. Parce que, évidemment, il y a toujours la question, bon, le fait d'être une femme en humour, mais en plus, là, vous avez, dans votre cas, le fait d'être une femme noire qui fait de l'humour. Alors, pensez-vous que c'est important de faire cette distinction, de parler, justement, de votre réalité à ce niveau-là?
Absolument, absolument. Parce que, premièrement, c'est une bataille, en fait, j'aime dire une bataille, ou plutôt une lutte, peu importe, qui est quand même similaire. Parce que c'était important pour nous, à un moment donné, d'avoir des femmes en humour. Donc, quand on a lu... Quand on a eu Lise Dion, finalement...
Oui, alors je pense qu'on a... Oh, la ligne s'est coupée, ça se peut-tu? Bon. Ouais, ou bien c'est ça, peut-être. Enfin, on va essayer on va tenter de la joindre. Alors, vous savez, je vais juste vous reparler d'elle parce que c'est quand même une femme qui est détentrice d'un bac en sciences économiques et titulaire d'une spécialisation en criminologie. Alors, vraiment, par la suite être allée carrément en humour, c'est particulier. Et justement, je lisais que c'était lors du passage de l'École nationale de l'humour en Haïti qu'elle a vraiment fait le saut. Et c'est Louise Richer, directrice générale et fondatrice de l'école, qui a décidé de recruter par la suite des aspirants humoristes haïtiens pour représenter leur pays au gala AA Haïti dans le cadre du festival Juste pour rire. Alors, vous êtes de retour, Gariana?
Oui, je m'excuse.
Ah, aucun problème. Bon, alors, c'est ça, donc. Alors, continuez, vous me parliez de cette importance, finalement, de souligner le fait d'être une femme noire humoriste.
Exactement. Donc, justement, pour faire justement le parallèle, comme je faisais avec Lise Dion, c'était important d'avoir cette voix féminine-là, en fait. Mm-hmm. Et ce regard et cette nouvelle perspective, c'est un autre angle, point. Et surtout, en fait, maintenant, dans tout l'ère où on parle de l'inclusion, où c'est important de parler d'inclusion, c'est important de parler de diversité, c'est important de nous inclure et de parler d'intégration, mais c'est important de aussi parler de notre histoire, en fait. parce que mon histoire n'est pas celle de Lise Dion, mon regard n'est pas le regard de Lise Dion, en fait. Donc oui, c'est une voix féminine, mais c'est une voix féminine avec un autre regard, un autre vécu et une nouvelle expérience de vie, en fait. Et nous sommes plusieurs, on va pas se le cacher, Montréal, Québec, on est multiethnique et c'est important d'entendre toutes ces voix-là.
C'est ça. Et puis, en fait, on dit souvent, enfin, c'est vous qui le dites, que souvent vous étiez jugée trop québécoise pour les Haïtiens et trop haïtienne pour les Québécois. Qu'est-ce que vous vouliez dire?
Ben, en fait, une fois que j'arrive en Haïti, on te met l'étiquette. L'étiquette, c'est que tu viens d'ailleurs. Tu n'es pas d'ici. Parce que tu as le gros accent, tu as un autre regard, tu as des privilèges. Donc, voilà. Donc, c'est automatiquement, ça passe. Des fois comme une insulte, ça peut passer comme une insulte, comme aussi ça peut passer comme une carte de privilège, en fait. Et une fois ici arrivée à Montréal, la réalité, c'est que tu es une femme noire, tu es d'origine haïtienne, et c'est bizarre. Là aussi, on entend que tu as un accent. On te dit que tu as un gros accent. Donc, donc tu te trouves être une enfant du milieu, en fait, justement, trop québécoise pour les Haïtiens, parce que pour eux, tu n'es pas d'ici, et trop haïtienne pour les Québécoises, parce que pour eux aussi, tu n'es pas d'ici.
Ouais. Et vos spectacles, en fait, ça parle un peu de ça, de cette problématique-là, finalement.
En fait, ça parle de cette problématique-là, oui, mais ça parle aussi du terrain d'entente, en fait. Parce que c'est pour ça que j'ai décidé de ne plus être une bipatride, plutôt d'être une bipatride. Mm-hmm. Alors, d'assumer entièrement ces deux cultures, ces deux patries, et de les embrasser du mieux que je peux, en fait. Parce que c'est ma réalité, oui, mais la réalité de plusieurs autres Québécois d'origine diverse. En fait.
C'est ça, vous avez absolument raison. Il y a une différence entre humour québécois et humour haïtien?
Absolument, oui. En fait, oui, l'humour, je l'ai dit tout le temps, le rire est très universel, mais l'humour, c'est culturel. Et il n'y a pas à se le cacher. Et l'humour haïtien est un humour qui est très... On a un humour noir, en fait. C'est un humour qui est cynique. Et ça s'explique surtout... On a appris à rire de nos malheurs et on apprend à rire du malheur des autres, en fait. C'est qu'on en a tellement vu de toutes les couleurs après une année après l'autre, un jour après l'autre, qu'on a l'impression qu'on devient insensible des fois par rapport à certains sujets. Alors que c'est pas de l'insensibilité, c'est plutôt notre façon de naviguer à travers la vie, en fait, de ne pas se laisser affecter par tout et pour tout, en fait. Alors que l'humour québécois, ben, c'est un humour que je qualifie quand même très éclectique. Il y a beaucoup de... On est très diversifié. Donc, il y a autant de l'humour noir que de l'humour absurde. Moi, c'est ici que j'ai connu que ce que c'était l'humour absurde. Je ne le connaissais pas du tout. Avant, ça m'était très étranger. Donc, voilà. Donc, l'humour québécois est très, très, très diversifié en ce sens. Mais l'humour haïtien, il est quand même très spécifique à de l'humour noir et de l'humour cynique.
C'est ça. Puis, en fait, c'est pour vous, c'est célébrer la vie plutôt que de rester dans la douleur et la tristesse. Alors, parfois, votre humour, c'est ça, vous donne l'impression que vous avez une sensibilité, finalement, mais c'est pas du tout le cas.
Exactement, c'est bien ça.
Bon, parlons du spectacle Merci la vie.
Oui.
Alors, deuxième projet solo.
Oui, en fait, mais c'est pas sur mon deuxième projet, c'est mon premier projet solo.
Ah, d'accord.
Voilà, parce qu'avant, je faisais des spectacles, j'avais ma compagne de scène qui était ma sœur, et voilà, donc elle a pris sa retraite, donc là, je suis seule. Ah. Et voilà, donc Merci la vie, ça parle justement de ce côté manguérable, mais surtout des magnifiques anecdotes qui me sont arrivées. Tant par rapport à soit la maternité ou encore un peu des petites micro-agressions où je raconte et je navigue et que en fait j'explique à travers ce spectacle que malgré tous ces bas, en fait, qui ne sont pas nécessairement des bas, il y a toujours une leçon à retenir et en fait il y a toujours du bon, même dans le lait. Même quand on a l'impression que rien ne va, je pense que tout va bien.
Vous donnez un sens à tout ça, effectivement.
Exact.
Ah, d'accord. Alors, effectivement, donc, Merci la vie, présenté au Zoo Fest. Rappelez-nous donc, c'est présenté quel jour, ça?
Alors, c'est présenté les 19 et 23 juillet au Monument national, au studio Hydro-Québec à 19h.
Bon, alors, votre mère est heureuse, j'imagine, de votre parcours, parce que pour elle, bon, je lisais, c'était très drôle, parce que vous disiez, bon, ma mère serait au summum de ma carrière quand je jouerai aux côtés d'Anthony Cavanagh.
Exactement. C'est vraiment ça. J'ai participé à un documentaire qui s'appelle Une fois c'est un noir, en fait, que je vous invite à aller visiter d'ailleurs. Dans le documentaire, j'étais là avec Anthony Cavana comme étant des pionniers, en fait, de l'humour noir au Québec. Et pendant tout le documentaire, tous les commentaires qu'elle faisait, c'est par rapport à Anthony Cavana. Ah, t'as vu comme il est bon? Il était bien, il était vraiment bon. Mais je suis comme, mamie, je suis dans le documentaire. Elle est comme, ouais, voilà. Mais Anthony Cavana, il est là.
Enfin, ben, j'ai pas bien dit les choses. Je voulais dire, pour votre mère, c'est ça, elle considérait que vous seriez au summum de votre carrière quand vous seriez aux côtés d'Anthony Cavana. Alors, bref. Oui. Alors, vraiment, donc, première femme noire diplômée de l'École nationale de l'humour. Alors, bravo pour votre parcours et vraiment, on ira vous voir les 19 et 23 juillet prochains au Monument national. Alors, beau projet et c'est vraiment très intéressant, tout ce que vous pensez à propos de votre responsabilité aussi, ce que vous portez comme chapeau. Alors, c'est très bien. Merci beaucoup, Gariana Jean-Louis. Ça a été un plaisir de parler avec vous.
Merci pour moi aussi. Merci énormément et à la prochaine.
Merci, au revoir.
Au revoir.
I sat on the floor, looked up at my mom as she looked in the mirror. Put her lipstick on, and I wished it was mine. One day after school, she caught me wearing her dress, put me over her knee, said to pray and confess. But deep inside, I still wished it was mine. There's a girl looking back, and she's beautiful. Am I finally? Of your own imagination.
C'était RuPaul, qui est une drag queen américaine, chanteur, acteur, parolier, qui a connu la célébrité dans les années 90, où il est apparu dans plusieurs émissions de télévision, également au cinéma, sur plusieurs albums. Et maintenant, il y a cette fameuse compétition, RuPaul's Drag Race, la populaire compétition télévisée qui a propulsé sur le devant de la scène l'art du drag. Et oui, et puis bon, on sait que c'était surtout connu par la communauté LGBTQ, mais maintenant, c'est quand même très populaire, et puis il y a même bien des drag queens québécoises qui sont devenues des vedettes internationales grâce à cette émission. Et ben justement, on va passer de la drag queen au drag king en compagnie du duo Bière et Métal. Et oui, le tandem Rock Bière, Mélodie Noël Rousseau et Hervé Métal, Geneviève Labelle. Bonjour.
Bonjour.
Salut.
Hey, je les ai tous les deux en studio, c'est merveilleux. Habituellement, on a nos invités au téléphone, bien souvent. Hein, bon, mais là, je vous ai avec moi en studio, c'est très bien. Et ben, c'est ça, toujours dans le cadre du Zoo Fest, hein, évidemment, cet événement qui se veut un terrain de jeu pour les nouveaux visages, mais aussi pour des artistes plus établis qui offrent une liberté de création aux artistes qu'ils diffusent. Alors, vraiment, on sort des sentiers battus. Alors, vous serez là, effectivement, avec votre spectacle Bière et Métal, hein, c'est ça?
Oui, tout à fait.
Alors, d'ailleurs, bon, disons tout de suite, c'est quelle date ce sera présenté?
Le 17 juillet
le
à
17
21h30.
Juillet. D'accord. Et ce sera, je pense, sur la scène... quelle scène déjà?
TD.
TD, hein,
l'ancienne Astral.
Oui, il y a plusieurs scènes, évidemment. Alors, je vous invite à aller sur le site, bien sûr, du Zoo Fest pour avoir tous ces détails. Bon, alors, donc, vous êtes des habitués. Là, vous allez m'expliquer parce que, évidemment, on est habitués de parler des drag queens, mais là, parler des drag kings, c'est, on en voit de plus en plus maintenant.
Oui, ça explose dernièrement, bien sûr. On parlait là, des drag queens qui sont propulsées à l'avant-scène, mais bien sûr, ça amène avec elles d'autres sortes de drag. Nous, on fait partie de la communauté plus drag king, mais maintenant, les genres aussi s'éclatent du côté de la drag. Là, il y a des drag fluides.
Ah bon, ben, oui, tiens, oui. Oui, c'est ça, il y en a de toutes sortes. Alors, vous aurez compris que ce sont finalement des femmes qui deviennent des hommes, bon, qui prennent des personnalités
oui,
masculines.
Oui, mais pas nécessairement.
Pas nécessairement, c'est ça.
Ah d'accord, ça peut être des hommes aussi,
oui,
quoi.
Oui.
Ah d'accord, je comprends.
Oui, oui.
Mais qui font des personnages masculins, c'est ce qu'on veut dire.
Oui, il y a des personnes qui sont nées femmes qui vont faire de la drag queen, il y a des personnes qui sont nées femmes qui vont faire du drag king, et l'inverse aussi est possible.
Oui, vous avez raison.
Toutes les possibilités sont possibles.
C'est ça. Alors là, on est dans toutes les possibilités, comme vous dites.
Toi, d'ailleurs, est-ce que tu essaies plus drag queen ou drag king?
Ben, bonne question. Là, franchement, je pense que moi, j'irais dans le fluide. Je ferais les deux. Pourquoi pas? Ben oui, tiens, ça peut être drôlement intéressant d'un côté ou de l'autre. Vous avez quand même d'abord participé souvent au cabaret chez Mado, c'est-à-dire qu'il y a toujours des concours école, drag-moi, c'est comme ça que ça s'appelle. Hein?
Oui.
Et puis, vous avez été remarqué aussi dans ce genre de concours.
Oui, parce que avant nous, il y a le drag king Will Turmer qui a participé pour la première fois en tant que drag king. Mais sinon, Rock Bière a été le premier king à remporter. Puis l'année suivante, Hervé Metal l'a remporté. Et cette année, notre fils, parce qu'il y a des familles drag, notre fils Walter Ego a remporté. Donc ça fait 3 années que la coupe est dans la famille. On n'est pas mal fiers de
je
ça.
Je comprends. Eh ben, c'est ça. Puis d'ailleurs, je trouve votre nom très original et puis c'est très, très amusant. Bref, c'est ça. Parlez-nous de votre parcours. Vous arrivez là comment?
Ben, on a apprivoisé l'art de la drague tranquillement de l'extérieur, puis on s'est lancé dans la compétition. Puis présentement, on présente même un spectacle aux 2 mois, Bière et Métal, au cabaret Mado.
Hey, quand même! Oui, c'est ça, vous essayez de vous passer la parole, là.
Oui, c'est ça!
Il y en a une qui parle moins.
Oui, bien, Bière et Métal, dans le fond, c'est notre show super masculin, là. Mm. C'est un show avec juste des drag kings. Puis dans le fond, le concept, c'est qu'on maquille des nouveaux. Puis on les met sur la scène, c'est souvent nos amies comédiennes.
Là. C'est ça,
bien, honnêtement. Là. Puis sinon, on invite aussi des artistes drag king qu'on apprécie beaucoup. On les book sur le show, fait que c'est ça. Je pense que c'est la première fois au cabaret Mado qu'il y a un show juste de drag king récurrent, fait que ça fait du bien dans le paysage, c'est vraiment le fun.
Ben oui, tout à fait. Donc, vous contribuez, vous deux, là, à faire rayonner la richesse et la variété de la culture drag au Québec auprès d'un public qui grandit aussi.
Oui, ouais, on est vraiment chanceux. Notre public est très varié. C'est un public qui peut-être ne fréquenterait pas nécessairement le cabaret Mado. Donc, les publics se rencontrent. Puis ça, on trouve ça merveilleux là, que le village s'ouvre aussi. On parlait beaucoup de village gay, mais là, toutes les lettres de cet arc-en-ciel sont les bienvenues maintenant au village.
On travaille
à ça.
Effectivement. Bien sûr, si on reparle des drag queens, bon, on parle de personnalités connues ici au Québec.
Oui.
Là, Rita Baga, Barbada, Mado, qui en est une depuis longtemps. Comment vous voyez par rapport à ces figures quand même populaires, là? Parce que vous êtes vous-même des étoiles montantes, là.
Mais parce qu'on est des oiseaux rares, oui, je pense que du côté anglophone, les drag kings étaient une culture qui était plus présente, mais maintenant, du côté francophone, c'était quand même relativement nouveau, entre gros guillemets. Mais oui, on se fait offrir des opportunités merveilleuses. On va animer d'ailleurs le 6 août prochain le grand spectacle de drag local Majestix. On invite tout le monde à venir à cette scène extérieure à l'esplanade du Parc olympique. Il va y avoir environ 10 000 personnes là, présentes, donc on s'est
quand
fait...
Même,
ouais, c'est ça. On est à la barre de ce gros, gros bateau. Wow. On est vraiment fiers. Mais on nous fait une confiance aussi par rapport à ça. Donc, c'est super touchant.
Tout à fait. Ouais. C'est un événement tout à fait festif. Au début, bon, je parlais de l'émission RuPaul's Drag Race. Il n'y en a pas de drag king dans cette émission-là, apparemment?
Non, il n'y en a pas. Ils ne sont malheureusement pas les bienvenus.
Vous jugez ça comment? Comment se fait-il,
ben,
vous pensez?
C'est dommage. C'est comme si ils ont peut-être l'impression que on peut pas juger une drag queen puis un drag king de la même façon. Pourtant, on performe sur les mêmes scènes.
C'est ça.
C'est le même type d'art. On fait du lip-sync, on fait des personnages magnifiés. On met autant de temps dans nos maquillages, dans nos costumes. Fait que c'est bien dommage, mais... RuPaul elle-même a spécifié qu'elle ne voulait pas de drag king sur son show.
Est-ce que, bon, c'est sûr que c'est quelqu'un qui est établi depuis longtemps. Est-ce qu'il y a vraiment des artistes émergents, là? On peut dire que oui, c'est sûr qu'il y a les artistes plus vieux, entre guillemets, là. Alors, c'est peut-être ça aussi, là.
Oui.
Peut-être l'ouverture. On est là, on parle d'essayer d'établir des ponts, d'avoir une ouverture.
Ouais.
Et puis, justement, peut-être qu'il y en a aussi qui défendent leur fief, comme on dit, plus marquée.
C'est sûr qu'il y a quand même une misogynie sous-jacente là-dedans. Là. On ne peut pas s'empêcher de... c'est quand même assez drôle. Là. On incarne le sexe fort, mais on reste quand même le sexe faible en dessous de ça, puis on vit des injustices encore une fois là.
Quelle contradiction, hein?
Oui, mais on a de plus en plus des alliés en France. Moi, je suis vraiment déçue que c'est pas le Canada qui a fait le pas en premier d'inviter des drag kings sur le spectacle, la version Drag Race Canada, mais la version Drag Race France a eu des drag kings, pas dans la compétition, mais il y a eu une apparition, puis il y a eu la mention de cet art-là. Déjà, juste de dire le mot drag king sous la franchise Drag Race, c'était un grand pas en avant. Donc, j'imagine que d'ici là...
Ça va émerger, finalement.
Ouais.
Mais dites-nous, alors concrètement, sur scène, ça se passe comment? On s'attend à quoi?
On s'attend à des blagues féministes.
Ah bon?
Oui. De la masculinité toxique exacerbée.
Ah, voilà.
Mais pas que ça, parce qu'on a des invités tellement variés pour l'édition Bière et Métal du 17 juillet prochain.
Oui, on a Iggy Zob,
petit
nouveau là, qui a participé à la compétition Drag-moi, justement, à l'automne dernier.
Ouais.
Un flamboyant.
On a Hergie Sleaze qui a participé à la compétition télévisuelle Call Me Mother.
OK.
Ouais.
Il est exceptionnel. Suivez-le sur Instagram. Ses looks sont incroyables.
On a Clitoris aussi. Clitoris.
Oh, oui, ça nous dit quelque chose. Ça sonne des cloches.
Ils ont tous des noms très originaux. On a Evan Genderfuck.
Oui.
Ah, bon, tiens donc.
On parlait de drag fluide, donc voilà. Oui. On a... quelqu'un qui va dans tous les genres et qui va mélanger les styles et le burlesque aussi.
Ah, d'accord. Écoutez, c'est tout le temps qu'on a, malheureusement. On ira voir plus en détail sur le site du ZooFest. Alors, écoutez, bon spectacle. Et puis, de toute façon, on peut vous voir régulièrement chez Mado. C'est à suivre. Alors, sinon, 17 juillet, 21h30, sur la scène TD. Voilà.
Merci.
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 Au revoir.
Merci.
Vous écoutez Aime l'été.
Et oui, vous écoutez Aime l'été, votre émission estivale présentée du lundi au vendredi de midi à 13h sur Canal M, Vue et Voix. Un moment pour aborder plein de sujets avec nos invités, parler d'activités, de festivals, de choses à faire et à voir cet été. Parmi nos sujets de la semaine dernière, nous avions rencontré le directeur de la programmation du Comic-Con 2022, Cliff Caporal. Le Comic-Con qui a eu lieu en fin de semaine au Palais des Congrès à Montréal. Alors, bien heureuse de savoir en passant que l'événement a finalement attiré un nombre record de 62 000 personnes, et oui, ces amateurs d'œuvres de science-fiction, d'univers fantastique, de bandes dessinées, de films et séries populaires. Un événement très apprécié et festif, d'ailleurs. Et oui, c'est ça, beaucoup de gens, y compris de jeunes familles, s'étaient même costumés pour cette 12e édition du Comic-Con. À venir au cours de cette deuxième partie d'heure, chronique environnement, mais d'abord, on parle de santé mentale dans un instant.
joue son rôle, rideau monte et descend. Un musicien se serre les dents et le sait bien. Pour une fois, à la porte d'un café, son nom vient de s'effacer. On a trouvé quelqu'un de mieux. Un musicien se fait. Monte et descend.
C'était Harmonium, un musicien parmi tant d'autres. On a mis quelqu'un au monde, on devrait peut-être l'écouter. C'était donc Harmonium, et oui. Alors, pour notre prochain sujet, il sera question de santé mentale. Vous savez, à Aime l'été, on s'intéresse parfois aussi à des sujets plus sérieux. Faut dire que l'été, c'est un moment de l'année qui peut avoir ses conséquences sur la santé mentale. Selon l'Institut national de santé publique du Québec, il existe quelques études maintenant selon lesquelles il y aurait un lien à faire entre les températures plus élevées et les problèmes de santé mentale. On pense entre autres au manque de sommeil lié à la chaleur, qui peut affecter des personnes plus vulnérables. Mais il y a aussi d'autres facteurs, comme les stress liés aux événements extrêmes, hein, orages violents, inondations, feux de forêt. Et puis l'été, ce n'est pas toujours la période des vacances rêvées. L'été n'est pas toujours de tout repos, hein. Alors parfois, on a même l'impression que l'été nous amène un surcroît de travail. Au bureau ou dans nos activités professionnelles, par exemple, il faut souvent prendre la relève des collègues qui sont en vacances. On peut également avoir une charge de travail plus importante aussi à la maison, entretenir un terrain. Pour certaines personnes, il peut y avoir aussi un stress par rapport à l'image corporelle, le fait de devoir s'habiller de façon plus légère, de porter un maillot de bain. Enfin, pour des personnes aussi ayant un problème de santé mentale, juste de savoir que notre médecin ou thérapeute est en vacances, ça peut être une grande source d'anxiété. Bref, on va en parler de santé mentale avec quelqu'un qui connaît bien le sujet et qui a écrit également là-dessus. J'accueille Richard Langlois, auteur, conférencier sur les troubles en santé mentale. Et bien oui, le livre, entre autres, Le Sentier étoilé, paru il y a quelque temps. Bonjour.
Bonjour, Chantal.
Bon, que pensez-vous de ça? Est-ce que vous pensez que l'été, oui, peut exacerber certains problèmes de santé mentale?
Oui, absolument. C'est ce que vous venez de dire, là, en préambule, est très vrai. En ce qui me concerne, juste pour faire une image, moi, j'ai un diagnostic de trouble bipolaire, puis je prends une médication. Et donc, cette médication-là fait en sorte que s'il fait en haut de, je dirais, de 24-25 degrés, là, pour moi, c'est quasiment insupportable.
C'est vrai?
Oui, il y a beaucoup de personnes qui ont une médication psychiatrique qui ont peine à endurer la chaleur. Alors, c'est du non-dit, c'est des choses qu'on entend peu, mais pour les gens qui vivent avec des problèmes de santé mentale, nous, on le sait très bien, nous.
Ouais, c'est ça. Bon, ben mon Dieu. Alors, on était tout à fait pile-poil. Oui, il faut s'intéresser à ce genre de choses-là, effectivement. Oui. Donc, le lien à faire avec, effectivement, des températures plus élevées. Bref, vous avez tout un parcours. Là, vous avez étudié dans un tout autre domaine, en fait, que celui que vous occupez en ce moment. Là. Bon, vous avez quand même aussi étudié en théologie à l'Université Laval et vous avez été appelé à intervenir comme agent de liaison à l'AGIR,
oui.
Qui est quand même un regroupement là pour enfin un regroupement d'organismes communautaires en santé mentale.
Oui, c'est ça, à Québec. Et puis ce regroupement-là fait partie d'un grand regroupement provincial. Je vais le nommer tout de suite. Là, ça s'appelle le COSME. Et ça regroupe, mon Dieu, entre 350 et 400 organismes communautaires de partout dans la province de Québec. Si, par exemple, les gens cherchent à un moment donné à savoir, bon, est-ce qu'il y a quelque chose dans mes parages, dans ma région, qui peut être pertinent pour moi, ben, à ce moment-là, on peut contacter le COS pour avoir le lien vers ma région.
Oui, bon, parfait, ça, c'est intéressant. Et puis, bon, alors vous vous êtes intéressé, bien sûr, à la santé mentale aussi en raison de votre trouble bipolaire. Et vous vous êtes mis à faire des conférences, donc vous en donnez régulièrement. À travers cela, ben, ça veut dire des rencontres aussi avec plein de gens.
Oui, absolument. Je peux vous dire que la détresse, elle est très, très présente. Hein? Je vous dirais, il y a des milieux qui commencent à s'ouvrir un peu plus. Moi, par exemple, je donne des conférences un peu plus maintenant et des formations dans le milieu de la justice, pour donner un exemple. Mm-hmm. C'est quand même bon de voir que le monde des avocats, des juges aussi, prennent la peine de s'intéresser. Puis, je vais faire, par exemple, des conférences en compagnie, des fois, de médecins ou de psychiatres, par exemple, pour faire vraiment des formations complètes. Pour les, on va appeler ça des clientèles, ces gens-là.
Donc, pour des conférences très ciblées là, sur une clientèle précise.
Mm-hmm. Oui, dans ces cas-là, oui. Mais à quelque part, je pense que tout le monde en a besoin.
Ouais.
Surtout nos milieux de travail. Hein. Nos milieux de travail, souvent, on a des craintes, on a des peurs. On a un collègue ou une collègue qui est pas là depuis un bon bout de temps. Puis là, whoop, là, elle revient, puis là, on se demande qu'est-ce qui s'est passé. C'est tellement omniprésent hein, quand on dit que c'est une personne sur cinq qui va vivre ou qui vit avec un problème de santé mentale. On n'a pas... pour une entreprise qui a 100 employés, ça veut dire qu'on est à 20 personnes.
Mm-hmm, c'est ça. Et puis, souvent, les milieux de travail sont des univers toxiques. Hein? On en parle de plus en plus.
Oui, parce qu'il y a des bons milieux de travail, puis il y a des milieux de travail où c'est vraiment, effectivement, des univers toxiques. Je pense que c'est très présent. On en parle, heureusement. Mais on a encore beaucoup, beaucoup de chemin à parcourir à ce niveau-là.
C'est ça. Quels sont les dominateurs communs là, pour ceux qui vivent un problème de santé mentale? Enfin, quelles sont les conditions qui vont amener justement à déclencher les symptômes les plus fréquents chez les personnes atteintes d'un problème de santé mentale?
C'est dur de faire des généralités. Mmh. Moi, ce que je pense, c'est que tout d'abord, il y a souvent un stress majeur qui apparaît en cours de route. Il peut être dans le milieu de travail, il peut être à la maison, ça peut être dans un couple, à la famille, du côté, par exemple, financier. Ça peut faire en sorte que moi, par exemple, mon premier épisode de trouble bipolaire est arrivé en parallèle avec une
séparation.
Une séparation que j'envisageais. Alors, c'est comme ça que ça s'est produit, mais ça, c'est mon cas. Si on prend chaque cas, vous allez être surprise de voir que ça peut être très, très différent d'une personne à l'autre.
Mm-hmm,
et aussi, on peut pas, par exemple, au niveau du trouble bipolaire, dire, bon, ben, c'est tel symptôme, tel symptôme, tel symptôme. Chaque personne le vit à sa façon. C'est sûr qu'il y a des généralités du style, par exemple, oui, ton cerveau roule à 100 000 à l'heure. Ça, c'est des choses qu'on va voir, mais il faut faire attention là, à ce niveau-là. Je pense que c'est pour ça que c'est important de voir les spécialistes. Là,
effectivement, oui. Donc, de consulter toujours. Alors, dans votre livre, justement, paru, enfin, il n'y a pas si longtemps, là, Le Sentier étoilé, vous avez des pistes aussi de solutions par des témoignages, en fait. Ça nous dit un peu comment va-t-on réussir à s'en sortir? Comment transformer cette expérience douloureuse, bien souvent, en quelque chose de positif? Là.
Oui, bien, c'est important de la transcender. Hein. Puis là, ben, j'ai eu la chance d'aller chercher des personnes qui ont un vécu très différent, donc avec, je dirais, qui ont vécu des détresses très, très différentes d'une personne à l'autre. Mais l'important, ce que je leur ai demandé, c'est qu'il faut que tu parles d'espoir, puis il faut que tu parles de la résilience. Alors, tout ça n'arrive pas par hasard, donc de montrer un petit peu, bon, quel chemin moi j'ai parcouru pour arriver à ce que je suis aujourd'hui. J'ai une vie stable et puis pourquoi qu'elle est si stable que ça, ma vie maintenant?
Mm-hmm.
Alors, c'est important d'en parler. Et puis, je suis allé chercher donc des collaborateurs. J'aurais pas allé en chercher 25. Là, j'en ai 8. Je suis allé chercher aussi des collaborateurs qui m'ont écrit des textes absolument extraordinaires sur des sujets là, vraiment, vraiment pertinents. La santé globale, la spiritualité, la promotion de la santé, la mm-hmm. prévention, la stigmatisation. Il y en a pour tous les goûts.
Oui, parce que votre livre est en deux parties, hein, faut le souligner. Alors donc,
oui.
C'est ça. Donc, en deuxième partie, justement, vous abordez la question de la santé globale, en effet. Et oui. La première partie est plus réservée à des témoignages. Évidemment, il y a une prise de conscience qui doit se faire, consulter, partager ses expériences, être accompagné. La famille, hein, qui peut être très importante.
La famille peut être très aidante. D'ailleurs, il y a un réseau québécois qui s'appelle le réseau Avant de craquer. C'est 45 organismes qu'on retrouve partout dans la province. Et puis là, à ce moment-là, on peut aller rencontrer d'autres personnes qui ont vécu, qui s'apparentent à notre vécu en termes de comme membre, je dirais, de l'entourage. Alors c'est important de savoir qu'on n'est pas tout seul, puis qu'il y a des possibilités, qu'il y a des gens qui s'en sortent bien. Des fois, c'est une question de temps aussi.
Mm-hmm.
Des fois, pour d'aucuns, c'est plus long que d'autres. Alors c'est encore une fois très... c'est unique à chaque personne, je vous dirais.
En effet. Et puis, évidemment, les problèmes de santé mentale hein, de quelqu'un transforment aussi la vie des autres, celle des parents, des conjoints, des amis. Alors ça aussi, il faut savoir rebondir aussi pour ces gens-là.
Oui, il faut savoir rebondir, puis... C'est toujours une question unique. C'est aussi le temps. Le temps est différent d'une personne à l'autre. Et il y a un élément qu'on parle pas suffisamment à mon goût, c'est que on doit parler de promotion et de prévention au niveau de la santé. Pour moi, c'est on peut pas passer à côté de ça. On est toujours dans le curatif.
Mm-hmm,
puis à un moment donné, est-ce qu'il y a moyen de regarder qu'est-ce qu'on fait pendant la petite enfance, au niveau des compétences parentales, pendant qu'on est dans le milieu scolaire, et ainsi de suite. Donc c'est pas par hasard qu'il y a des gens qui ont des vies peut-être un petit peu plus équilibrées, je m'excuse, mais aussi en même temps, ça nous prend des facteurs qu'on va, je dirais, quelque part, qu'on va tenir compte tout au long de la vie. Là. La promotion puis la prévention, c'est
important, puis ça touche beaucoup d'intervenants. À toutes les périodes de notre vie, tous les stades de développement aussi. Alors, Richard Langlois, vraiment, on ira quand même consulter votre livre « Le sentier étoilé », paru il y a quelques temps, mais toujours très pertinent avec tous ces témoignages, et je pense que ça fait du bien. Ça fait du bien pour les gens qui sont concernés par la santé mentale directement et par, comme on dit, la famille, les gens autour de ces gens qui vivent des difficultés.
C'est ça. S'il y a des gens qui veulent me rejoindre, j'ai toujours mon site Internet personnel, Richard Langlois. Je me retrouve sur Facebook, LinkedIn et compagnie. C'est toujours un plaisir pour moi d'aiguiller les gens là, quand il y a des besoins particuliers.
Merci beaucoup, Richard Langlois.
Merci, Chantal.
Passez une excellente journée.
Vous aussi.
Au revoir.
Bye-bye.
Maman m'a dit de faire attention. J'ai pas compris mais j'ai monté le son. J'ai vu la terre mourir à petit feu. Comme dit mon père, on aurait pu faire mieux. J'ai pas compris, j'ai posé des questions. Dites-moi les grands, n'ont-ils pas de raison? Ce serait dommage qu'on ne puisse plus vivre ici. Ou même pire qu'on meure de leur connerie. Et ça danse, danse, danse dans ce monde. Mais ça ne... Et ça danse, danse, danse dans la ronde. Mais nos vieux ne pensent pas. Nous sommes les enfants du monde. Nous sommes les enfants du monde. Et si nos parents se trompent, que vont-ils nous laisser dans ce monde? Nous sommes les attention, et tu devrais faire pareil, mon garçon. Dans quelques temps, ce sera déjà trop tard. On ne peut plus laisser ça au hasard. J'ai pris ma feuille et fait quelques brouillons avant de vous écrire cette chanson. La vérité sort de la bouche des enfants. Donnez-nous droit de devenir grand. Et ça danse, 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 danse.
Les Les Enfants du Monde, Green Team, qui est un collectif de musique pop qui promouvoit la protection de l'environnement et dont une partie des bénéfices aussi revient à la fondation Good Planet, fondation qui est à l'origine de Green Team. Et puis, c'était chanté par Erza Bucoli, qui a aussi fait partie du groupe Kids United, cette chanteuse française, oui. Et donc, Kids United, que l'on vous a d'ailleurs fait entendre ici même à M l'été. Donc, belle façon d'introduire notre toute première chronique environnement. Bonjour Mathieu Laneuville.
Bonjour Madame Savoie.
Eh bien oui, alors donc, du réseau environnement, vous êtes le président du réseau environnement, hein, c'est bien ça?
Oui, c'est bien ça, président, donc, directeur général.
Eh oui, le plus important regroupement de spécialistes en environnement du Québec et qui agit à titre de catalyseur de l'économie verte. Alors, vous serez notre chroniqueur pour l'été, notre chroniqueur environnement. Et aujourd'hui, vous allez nous parler de l'eau. D'ailleurs, je pense que c'est une de vos spécialités là, comme ingénieur.
Tout à fait. Alors, je suis ingénieur expert en eau de formation. Et par le temps, on a élargi les horizons. Et on a dansé et pensé avec réseau environnement.
Bon, parfait. Et puis, vous enseignez aussi au niveau de la maîtrise. Alors, vous êtes bien concerné par tous les sujets liés à l'environnement. Et parlez-nous justement de, enfin, le chemin de l'eau pour se rendre jusqu'à chez nous, finalement. L'eau qui est très important, qui est un sujet, bien sûr, dont on parle de plus en plus.
Tout à fait. Alors, pour valoriser une ressource si chère que l'or bleu qu'on appelle l'eau, on a besoin des fois de bien comprendre aussi c'est quoi le contexte du chemin de l'eau. Et souvent, on ne réalise pas que quand on ouvre le robinet, il y a des milliers de travailleuses et travailleurs au Québec qui s'activent pour qu'on ait une eau de bonne qualité, de bonne pression, mm-hmm. et qu'il y a tout un chemin avec des infrastructures justement là, qui sont présentes.
Donc, il y a beaucoup de facteurs, là. Il y a beaucoup d'intervenants, comme vous disiez, là. Puis, je pense, entre autres, là, juste une petite parenthèse, je sais qu'il y a beaucoup de travaux à Montréal, là, pour le remplacement des fameuses conduites d'eau au plomb, entre autres, ouais.
Tout à fait. Ça, c'est un des enjeux, là, qu'on a depuis plusieurs années, là, le plomb dans nos entrées de service à les maisons. Alors, ça, c'est un des enjeux à lesquels là, font face, justement, tous nos professionnels, nos expertes et experts au Québec. Et il faut savoir qu'avant d'arriver l'eau dans les entrées de service des maisons, mais quand même, par exemple, si on prend l'exemple de la ville de Montréal, l'eau provient du fleuve Saint-Laurent, mm-hmm. Où on l'achemine à une usine, plusieurs usines là, dans le cas de Montréal, de production d'eau potable, où est-ce qu'on va vraiment traiter notre eau pour qu'on puisse la prendre à la consommation. Et ensuite aussi, on va la distribuer dans des réseaux de distribution d'eau potable pour se rendre justement jusqu'à la maison. Puis ça, quand même, là, on a 42 000 kilomètres de conduite d'eau potable au Québec. Mmh. Alors, si on mettait ça bout à bout, on ferait le tour de la planète avec ça.
Oh là là.
Et c'est pour dire là, l'importance de nos infrastructures publiques.
Donc, raison de plus de ne pas gaspiller l'eau, hein?
Tout à fait. Et quand on se compare, par exemple, avec l'Ontario, on voit qu'on produit environ le 50 % plus d'eau par personne. Si on se compare avec l'Europe, c'est encore plus. Alors, évidemment, il y a un enjeu environnemental, mais il y a aussi un enjeu économique aussi à cette ressource-là, parce qu'évidemment, si on produit beaucoup plus d'eau, mais il faut des infrastructures aussi qu'il faut concevoir de façon là, plus grande. Alors évidemment, en étant plus efficace, on a des gains pour notre environnement, pour l'économie et aussi pour la santé humaine.
C'est ça. Bon, mais bon, on parle de l'eau du fleuve et tout ça, et de l'eau à Montréal notamment. L'eau est d'une très grande qualité ici à Montréal.
Oui, tout à fait. On est chanceux d'avoir le fleuve Saint-Laurent. Il faut savoir, le Québec, en général, on a 3 % des réserves d'eau douce de la planète. Alors, quand même, en termes de disponibilité de la ressource, on se situe bien par rapport à l'international. Par contre, si on y va de façon régionale, c'est pas tout, évidemment, toutes nos municipalités, tous nos citoyens et citoyens qui sont sur le bord du fleuve Saint-Laurent. Alors, il y a des enjeux. Par exemple, on prend la couronne nord de la ville de Montréal, où est-ce que la rivière des Mille, on sait que plus tard dans l'été, souvent, il y a des sécheresses qui arrivent. Mm-hmm. On pense au secteur de l'Estrie aussi, où souvent, ils sont en approvisionnement d'eau souterraine.
C'est ce que j'allais
là,
dire,
on a nos nappes aussi qui ont de la misère à se régénérer. Alors, on a des bons enjeux quand même en termes de disponibilité.
Ça peut vouloir dire que des municipalités pourraient fermer, littéralement, parce qu'il n'y a plus d'eau.
On a quand même des bons plans qu'on fait avec nos municipalités. Il faut savoir là, qu'on a beaucoup de professionnels qui s'activent là, pour prévoir ces choses-là. Alors, on souvent va regarder là, sur les tendances là, sur le long terme pour avoir des solutions. Parmi ces solutions-là, qu'est-ce qu'on retrouve? Probablement que vous avez pu le voir, là, on le constate depuis plusieurs années, on a une réglementation provinciale qui est plus proactive, une programmation aussi, une réglementation municipale aussi qui est plus proactive. Alors, au niveau provincial, on a vu par exemple là, que les toilettes, les pommeaux de douche, les robinets, etc., on a des débits qu'on va réglementer davantage pour les limiter. Et au niveau des municipalités, on va souvent parler de l'arrosage, par exemple, où est-ce qu'on va limiter davantage qu'auparavant.
Mmh, c'est ça. Puis tout à l'heure, on parlait d'eau souterraine, mais c'est parce qu'en fait, je pensais à une municipalité, je pense en Estrie, qui est carrément approvisionnée avec des camions-citernes. C'est
oui,
une petite
ça,
municipalité.
Il y a des solutions
là, mais...
temporaires, des fois, qu'on a comme ça. Mais la solution sur le long terme, c'est vraiment de prendre soin de notre ressource pour pouvoir... On est capable de voir c'est quoi les taux de renouvellement des nappes phréatiques. On est en mesure d'évaluer tout ça et de concevoir aussi nos municipalités, notre urbanisme en fonction de ces critères-là. Puis là, on parle beaucoup d'eau potable, mais tantôt, quand vous m'avez parlé du chemin de la rivière à la rivière, comme on dit, là, le chemin de cycle urbain de l'eau, il faut savoir aussi qu'on a beaucoup d'autres infrastructures avant de rejeter notre eau. Alors, quand on ouvre le robinet, alors, on vient de parler de ce chemin-là, mais par la suite aussi, quand notre eau coule du robinet ou de la toilette ou de la machine à laver et de nos industries, etc., on a aussi des canalisations de collecte des eaux usées, aussi des usines de traitement des eaux usées au Québec avant qu'on rejette nos eaux dans la nature.
Ah oui, effectivement. Donc, évidemment, on peut parler de contamination, de contaminants. Bon, justement, c'est très drôle parce que là, on parle de COVID et puis on mesure aussi dans nos eaux, hein, enfin, le taux de, enfin, de comment dire, de le taux de COVID, façon de parler, là. Enfin, on peut analyser plein de choses dans l'eau, effectivement. Alors, il y aurait tout un autre sujet.
Que vous mentionnez, parce qu'on le voyait auparavant, on voyait dans certaines villes, des fois, on voulait mesurer aussi par exemple, la drogue, etc., comment c'était implanté dans une ville.
Ouais.
Et par la suite, on a des chercheurs, notamment du Québec, là, on pense à l'Université Laval, à la Polytechnique, à des gens de chez nous, l'INRS, etc., qui ont justement là, poussé pour qu'on puisse détecter justement la COVID à travers
c'est
nos
ça.
Musées.
Eh bien, Mathieu... Ouais, oui. Ben, écoutez, je vous coupe, Mathieu, mais enfin, on se reparlera, c'est lundi prochain? Alors,
lundi
je vous
prochain,
souhaite...
On va continuer la discussion.
Parfait. Merci, Mathieu, et bonjour à tous. Je vous reviens demain.